Depuis 47 ans, la ville de Toulouse est jumelée avec Kiev, capitale de l'Ukraine. Au service de ce jumelage, l'association Yaroslavna met tout en œuvre pour tisser les liens entre les habitants de ces deux villes. Yaroslavna a vu son activité prendre une autre tournure depuis le début de la guerre en Ukraine. Son président est notre invité. Bonjour Hugues Negretto.
Bonjour.
Merci de vous rendre ainsi disponible pour cet entretien sur Radio Présence. Vos journées doivent être bien chargées en ce moment. Quelle est la mission d'origine de l'association Yaroslavna que vous présidez?
La mission d'origine a été jusqu'à aujourd'hui de récupérer des enfants pour les vacances d'été, pour faire le jumelage entre les enfants de Toulouse et les enfants de Kiev. Donc les récupérer à l'aéroport, les répartir dans des familles d'accueil pendant quelques jours, les faire partir en colonie, donc les amener au départ de Toulouse pour la colonie, les récupérer au retour de leurs 3 semaines, les garder quelques jours avec une visite de Toulouse, une réception à la mairie de Toulouse, et de les ramener à l'aéroport. Voilà les grands, vraiment ce qu'on faisait. Après, on avait d'autres activités avec des enfants qui venaient, mais ponctuellement, dans le courant de l'année.
C'était votre activité principale. Alors évidemment, depuis 2 semaines, votre activité a pris une autre tournure, je le disais en introduction. Comment faites-vous face aujourd'hui à l'urgence de la situation?
Aujourd'hui, c'est très compliqué. Ça fait une semaine que je m'occupe que de cette urgence, que de gérer les appels entre les membres de l'association qui sont pour la plupart ukrainiens, et essayer de trouver des informations et de faire des liens avec la Haute-Garonne, avec les personnes qui peuvent nous aider à financièrement à se préparer à la vague qui va nous arriver, faire le lien avec la mairie, faire le lien avec les familles d'accueil et les réfugiés qui commencent à arriver.
Ces familles d'accueil, ce sont donc celles qui accueillaient déjà les enfants, ou est-ce que vous avez d'autres familles qui se sont mobilisées et qui sont venues à votre rencontre?
On a beaucoup d'autres familles qui se sont mobilisées, qui, par rapport au coup de fil que j'ai avec la mairie, qui cherchent à se mobiliser, qui se proposent qui proposent une chambre, qui proposent un petit appartement, qui proposent leur service. C'est une grosse mobilisation autour de Toulouse, et c'est appréciable.
Oui, c'est un bel élan de générosité. Vous êtes en lien avec la population en Ukraine. Comment vit-elle en ce temps de guerre? Quelles sont les nouvelles du front, si on peut dire?
Oui, on a notre lien qui est Vera, qui est une professeure des écoles sur Kiev, que j'ai régulièrement au téléphone, et qui habite dans un immeuble en bord de ville, qui voit de chez elle en fait tous les blocs en béton et les fers là pour empêcher
les chicanes, pour bloquer les routes.
Les chicanes pour bloquer les routes, pour empêcher les Russes de passer. Et depuis hier là, elle s'inquiète un petit peu parce que voilà, les Russes sont arrivés, commencent à encercler Kiev. Elle a déjà vu 2-3 missiles passer au-dessus de son immeuble, et elle est très inquiète.
Oui, il y a de quoi. Comment se passe aussi l'intégration des populations ukrainiennes dans l'armée? Est-ce qu'il y a des soldats qui peuvent se présenter?
On a récupéré deux femmes, donc dont leur copain est resté à Kiev pour se battre. Et en fait, ces gens-là ont voulu rentrer dans l'armée. Il y a une file d'attente pour entrer dans l'armée qui est énorme. Et en fait, l'armée ne les prend plus parce que c'est pas des gens qui savent se battre. Et l'armée a besoin de personnes qui savent se battre. Et ces gens-là, pour entrer, ils donnent des patchis. C'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent pour pouvoir aller se battre.
Plus de 2 Oui, c'est assez étonnant, mais merci de nous informer au plus près du terrain. Plus de 2 millions d'Ukrainiens ont fui aujourd'hui leur pays, principalement des femmes et des enfants. Vous le disiez, dans quel état d'esprit sont-ils?
Par exemple, là, en semaine, jeudi, on a récupéré un couple avec 5 enfants, de 2 à 12 ans. Et bon, ils avaient fait un périple, ils sont partis de Kiev jusqu'en Pologne. De Pologne, ils ont pris un avion qui est gratuit jusqu'en Italie. D'Italie, ils sont arrivés à Paris. Et de Paris, ils sont descendus en train jusqu'à Toulouse. On n'est pas le périple avec tous ces enfants
Oui.
et la fatigue, tout ce qui va avec. Ils sont pas, pour l'instant, ils sont pas très bien, quoi.
Et ils sont arrivés quand même soulagés de cette fin de voyage et puis d'être mis à l'abri, ou est-ce qu'il y a quand même un déchirement d'avoir quitté leur famille et leur pays? Est-ce qu'ils vous en
Mais les
parlent?
parents étaient soulagés. Et les enfants les plus jeunes, hein, ceux qui comprennent un petit peu, étaient marqués. Ça se voyait qu'ils étaient, bon, ils savaient pas où ils étaient, quoi. Ils étaient un petit peu
Oui.
perdus.
À votre avis, Hugues Negretto, est-ce qu'ils ont d'autres solutions que de quitter leur pays?
Mais moi, je vais vous donner l'exemple de Vera. Vera qui elle est dans un immeuble. Allez, pour être allé là-bas, on pourrait dire que c'est un immeuble, il y a 4 barres d'immeuble. C'est un peu, allez, le Mirail, il y a 15 ans, 15-20 ans, pour imaginer. Et elle est au 6e étage. Elle ne descend plus dans les sous-sols parce qu'elle se fatigue, elle en a marre. Elle ne peut pas partir parce qu'elle a 2 chats. Et sa belle-mère de 95 ans qu'elle ne peut pas transporter. Donc elle reste là-bas. On n'a pas le choix avec son mari. Et ils restent sur place et ils attendent de voir ce qui va se passer. Et que des cas comme ça, il doit y en avoir en pagaille.
Bien sûr, bien sûr.
Les femmes qui ont des enfants n'ont pas trop le choix, s'en vont. Et les femmes qui n'ont pas d'enfants restent sur place.
Oui, parce qu'elles sont aussi mises à contribution pour beaucoup de préparation. On l'a vu dans des informations, de préparer des filets de protection et beaucoup d'aide
Eh
pour
bien
les
oui,
soldats.
ouais. Soigner, aider, ouais, faire manger, ouais, tout ce qui peut aider le soldat, oui.
Bien sûr. La région Occitanie se mobilise pour venir en aide au peuple ukrainien. Elle concentre son action sur le recueil des dons et l'accueil des réfugiés qui, rappelons-le, sont actuellement plus de 2 millions. Quels sont aujourd'hui les besoins urgents auxquels il faut répondre?
Les besoins urgents, on ne les connaît pas encore. C'est se préparer à. Déjà, c'est par rapport aux associations, c'est ramasser, c'est récupérer des fonds, récupérer de l'argent pour pallier à ce qui va se passer demain. Parce que pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas encore les visions par rapport à tout ça. Nous, de notre côté, par exemple, on sait qu'on est au partenariat, si on peut dire, on suit une association humanitaire du Golfe-Est qui part ce dimanche pour aller jusqu'à la frontière ukrainienne et justement pour amener la nourriture. Ils partent avec 2 minibus, ramener des gens et surtout analyser le besoin. Et par rapport à ça, ils vont revenir et puis après on va prévoir un convoi avec ce qu'il faut, suivant le besoin, et on va envoyer tout ça, ils vont repartir.
Oui, parce qu'en fait, pour l'instant, ces dons financiers que vous appelez, vous allez les mettre à l'abri, on va dire, et puis en fonction des besoins qui vont être analysés, vous allez pouvoir distribuer aux familles qui sont arrivées des vêtements, de la nourriture, des médicaments aussi peut-être, et puis envoyer aussi nourriture et médicaments à ceux qui ne sont pas encore arrivés.
Oui, c'est plus pour aujourd'hui, ça va être plus pour faire partir un convoi. C'est qu'un convoi, mais ça coûte à peu près un véhicule, ça, avec des bénévoles, hein. C'est quelque chose qui va coûter à peu près 1 500 euros pour le
Oui, parce qu'il faut
véhicule.
plusieurs conducteurs aussi
Il faut plusieurs conducteurs, et puis
pour
il faut
parcourir
le
la distance.
carburant, il faut louer le véhicule, il faut Concernant les quand les familles arrivent ici, bon, c'est vrai qu'il faut les aider un petit peu pour qu'ils puissent manger, pour il y a beaucoup de générosité à ce niveau-là aussi, quoi. Il y a pas mal de gens qui donnent de la nourriture qui va pouvoir servir à nourrir ces personnes-là. Les vêtements, il y a beaucoup de gens qui proposent des vêtements. Et aujourd'hui, les associations les refusent parce que il y a un gros problème de stockage.
Et oui.
Donc, c'est en train de voir. Ce soir, on a une réunion avec la mairie de Toulouse et les associations pour continuer à s'organiser, pour continuer à se préparer. Parce qu'en effet, on a vu quand les cinq enfants sont arrivés avec un petit sac à dos.
Oui, donc ils n'avaient pas de quoi se vêtir pour un certain nombre de jours. Oui. Je signale le départ d'un convoi humanitaire samedi, donc c'est-à-dire demain, 20 véhicules qui partent pour la Pologne. Donc c'est un convoi qui est organisé aussi par la région Occitanie. Et il y a encore la possibilité de déposer des affaires. Avant-hier, le bombardement d'un hôpital pour enfants à Marioupol a suscité de nombreuses réactions d'indignation, parmi elles celle du secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal, Pietro Parolin. Je le cite, le bombardement d'un hôpital pédiatrique est inacceptable, il n'y a pas de motivation. Je suppose que vous partagez cette indignation. Que vous suggère cette action militaire de la Russie? Et qu'entendez-vous de son action sur place?
Il n'y a pas de cœur, c'est terrible. Après, les avis sont différents. On entend beaucoup parler. Voilà, la Russie, effectivement, ne serait pas la seule mise en cause. Hein. Elle aurait été poussée un petit peu par. Il y a beaucoup d'avis différents. Hein. C'est les Américains qui n'auraient pas fait grand-chose pour retenir cette guerre. Hein. D'autres qui disent que. Oui, le président russe, ça est un peu très dérangé, mais ça, enfin, on commence à le voir, parce que pour en effet mettre des bombes sur des hôpitaux où il y a des enfants, où il y a des malades, c'est inadmissible, c'est horrible.
Oui, c'est horrible. Vous avez d'autres informations sur l'activité de l'armée russe en Ukraine?
On a une petite information qui est faite par rapport justement aux gens aux conjoints des deux dames qui sont arrivées sur Toulouse, hein, qui m'ont raconté l'histoire des bachistes pour entrer dans l'armée. En fait, ils se seraient protégés, il y a des bombes, ils seraient se mettre à l'abri dans un grand hangar. Et dans ce grand hangar, ils ont découvert des centaines et des centaines de costumes de l'armée russe, pour sûrement préparer la parade une fois que la guerre était gagnée. Une fois qu'ils auraient rentré, qu'ils auraient réussi à envahir Kiev. Ce qui, à mon avis, ils pensaient faire beaucoup, beaucoup plus vite que ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, parce que vous me signaliez, en préparant cet entretien, que les Russes pensaient partir tout simplement en manœuvre, mais pas pour un combat de longue durée.
Oui, tout à fait. Les retours aussi, ouais, c'est que quand ils ont réussi à discuter avec certains soldats prisonniers ou autres, hein, et qu'en fait, ils étaient partis pour une manœuvre de 3 jours et non pas pour aller à la guerre.
Hein. Ça change effectivement la perspective. Pour terminer notre entretien, Hugues Negretto, dans cette situation de grande détresse, est-ce que vous voyez quand même des signes d'espérance?
Il va y avoir des négociations qui vont commencer, à mon avis. Et ces négociations-là, je pense que tout le monde commence à être un peu pris à la gorge, hein, autant les Russes que le monde entier, un petit peu à la gorge par cette guerre. Et il est souhaitable que les négociations amènent j'espère qu'une fois que les Russes auront complètement encerclé Kiev, vont rentrer en négociation et que ces négociations vont amener à une paix. Mais je sais pas.
On garde effectivement cette espérance. Oui. Et puis, il y a quand même l'Union européenne qui déploie, qui met en œuvre une protection temporaire, hein, puisqu'elle donne, elle prévoit un droit au séjour d'un an qui peut être renouvelé par période de 6 mois dans la limite de 2 ans et qu'elle assortit d'un pécule et d'une autorisation de travailler. Donc, c'est une situation certes temporaire, mais qui peut aussi rassurer les Ukrainiens qui quittent provisoirement leur pays.
Oui, la France aide et soutient c'est super.
Merci beaucoup, Une Gréto, président de l'association Yaroslavna, et bon courage parce que vous avez du pain sur la planche.
Oui.